Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ce matin ? Et venez, venez, approchez-vous, ne restez pas à des kilomètres, là j'ai l'impression d'être... Vous n'avez pas cette impression, toi Pedro, hein ? Un petit peu, hein, d'être un peu isolé. Heureusement qu'il y a des courageux. Alors, je dis, quelquefois, on postillonne, nous, les orateurs, mais nos postillons ne vont pas aussi loin quand même. Alors, merci beaucoup, Pedro, pour cette introduction. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des paroles particulièrement percutante de certains chants que nous chantons et des paroles dérangeantes. Des paroles, je dois l'avouer, que j'ai du mal à prononcer. Je ne sais pas si vous arrive. Et quelquefois, je chante et puis il y a une phrase où là, on pourrait mettre des points de suspension, vous savez. Tu es le seul ? Vous êtes d'accord avec ça ? Pas facile, hein ? Et vous savez dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'évoque ce chant ? Quel passage de la Bible ? Job, mais lui, il n'a pas chanté en théorie. Après avoir perdu tout et ses enfants, tu donnes et tu reprends. Que le nom de l'Éternel soit béni. On rechante, on va voir si tout le monde chante là. Alors, pour m'aider à le chanter, je le formule comme une prière. Et à l'intérieur de moi, je me dis, Seigneur, aide-moi, lorsque je serai dans telle circonstance, de continuer à bénir ton nom. Terriblement engageant les chants, souvent accompagné d'une musique extraordinaire qui nous aide à oublier les paroles et les engagements que nous formulons. Alors si je dis cela, ce n'est pas pour que nous arrêtions de le chanter, hein, ce chant, mais c'est juste pour nous aider à réfléchir parfois aux paroles que nous chantons, mais aussi pour dire, et c'est en lien avec ce que j'aimerais vous partager ce matin, que le Seigneur parfois nous emmène sur des, parfois, souvent, pour ne pas dire toujours, dans des endroits où nous n'irions pas de nous-mêmes, de ces endroits inconfortables, de ces endroits insécurisants. Il nous sort, comme nous le disons parfois, de notre zone de confort. Quand vous entendez les témoignages de personnes qui se sont converties, bien souvent, ils vous disent « ça a changé ma vie, c'est la joie, le bonheur ». Et c'est sans doute vrai pour beaucoup. Mais pour d'autres, se tourner vers le Seigneur, c'est là que les ennuis commencent. Le jour où je me suis converti, et le jour où je l'ai annoncé à mes parents, vous voyez qu'ils ont applaudi, j'ai reçu une claque de la part de ma mère qui résonne encore 50 ans plus tard dans mes oreilles. Lorsque je leur ai dit que j'allais me former dans un institut de théologie en vue de devenir pasteur, j'ai été mis dehors de la maison. Seigneur nous emmène, nous conduit dans des zones insécurisantes, dans des lieux qui, oui, sont parfois difficiles à parcourir, à explorer. Et j'aimerais ce matin, attends, je ne vais pas plomber l'ambiance après une présidence qui nous a levé aussi haut, mais j'aimerais vous inviter à lire un texte qui montre à quel point Jésus entraîne ses disciples dans des lieux qui sont insécurisants, mais pour y découvrir à la fois la puissance de leur Seigneur, cette capacité libératrice, et de mettre au cœur de la nuit, comme il met au cœur de notre nuit, sa lumière, sa présence. Alors peut-être, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, afficher, je ne l'ai pas mis sur ma diapositive, le texte de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20, c'est le texte sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin. Sinon, je vous invite à ouvrir votre Bible, ou votre iPhone, ou votre... et à lire les textes, donc, chapitre 5, versets 1 à 21. Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et cassé les chaînes et brisé les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombeaux et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut se prosterner devant lui et lui cria de toutes ses forces : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Je m'appelle Légion, répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus : « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allaient raconter l'histoire dans la ville, dans les fermes. Les gens vinrent voir donc ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus montait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit : « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Jusqu'ici notre lecture. Et j'aimerais aborder donc mon propos en 3 points. Les traditionnels 3 points, comme ça vous pouvez suivre, et vous savez quand je vais terminer. Donc quand j'arrive au dernier point, il a bientôt fini, donc c'est bon. Hein ? Une autorité totale, un choc frontal, un témoignage vital. 3 points. Alors j'aurais voulu titrer mon propos par un choc frontal. Vous savez, il faut un titre qui frappe, un choc frontal, comme dans les séries Netflix. Et si on le dit en anglais, hein, impact, frontal impact, là, ça, hein, Le dire en anglais, c'est sympa, hein, un choc frontal. Mais j'aimerais attirer votre attention surtout et particulièrement sur le titre qui sera l'objet, en fait, de ma méditation ce matin. Délivré pour témoigner. Je disais en introduction que Jésus nous entraîne dans des espaces et dans des zones qui sont exigeantes, qui nous bousculent, qui, quelquefois, peuvent nous choquer, nous prendre à contre-pied. Et c'est véritablement le cas ici, puisque Jésus emmène ses disciples dans une région qui s'appelle la Décapole, qui est tout au nord de Jérusalem, nord-est de la Palestine. Et là, cette Décapole était considérée comme un autre pays, un pays de langue étrangère, de culture grecque, et qui était majoritairement non-juive. Donc les disciples, qui n'avaient pas l'habitude d'aller en terre païenne, sont emmenés en terre païenne. Le premier choc culturel. Et au verset 20, verset 1, il est mentionné des pays de Gadaréniens ou de Gadara. C'était donc une subdivision de cette décapole. Et quand Jésus dit donc « passons de l'autre rive », ce n'est pas simplement une promenade en bateau à laquelle il invite ses disciples. Il y a une démarche qui est assez frappante de la part de Jésus. Jésus qui jusque-là s'était consacré à exercer son ministère en terre juive, va dans un pays étranger. Veut-il déjà donner ici un aperçu de son ministère et de sa venue qui ne sera pas essentiellement, exclusivement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toutes les nations? En tout cas, le fait de mentionner ce passage de frontière, me semble-t-il, apporte un éclairage assez important à ce texte. Et on peut se demander si les disciples étaient parfaitement à l'aise avec cette traversée du lac pour aller en pays païen. Surtout qu'on sait que cette traversée n'a pas été de tout repos. Premier point, il les emmène dans un endroit, dans une culture qui n'est pas celle des disciples. Mais les ennuis vont continuer. Que va-t-il se passer lorsqu'ils débarquent de l'autre côté du lac? Eh bien, c'est le pire que le monde païen puisse offrir et qui vient à la rencontre du groupe de disciples. Je ne vais pas m'attarder sur cette, puisqu'il s'agit de cette emprise, cet homme qui est sous l'emprise de démons. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette emprise, je crois que ça pourrait faire l'objet d'une étude particulière, mais le mal a des aspects mystérieux. Le mal a des aspects occultes. Il y a un mois, en arrière, le monde a fêté Halloween. Et vous voyez, il y a pression que l'on met sur les enfants. Moi, j'ai des petits-enfants. Et tous leurs copains et copines fêtaient Halloween. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants? Avec vos petits-enfants? Comment vous l'avez expliqué? Ce n'est pas forcément quelque chose que on aime. Alors je ne dis pas que la fête Halloween est une fête occulte, ce n'est pas cela. J'en sais de rien. Ce que je sais, c'est que le fait de mimer des gestes occultes, c'est quelque chose déjà qui prépare cette génération à aller plus loin encore. De plus, c'est une fête américaine qui est venue, il me semble, je ne connais pas tout à fait l'histoire, mais enfin, c'est le monde anglo-saxon qui est venu chez nous. Et partout en Europe, on fête, sauf en Afrique. Ça ne prend pas en Afrique. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en Afrique, on sait qu'on ne plaisante pas avec ça. On sait qu'on ne plaisante pas avec ça. Terrible pression, hein, de notre monde sur nos enfants, sur nos enfants. Le mal a des aspects mystérieux, occultes. Et c'est la nature même du mal de ne pas se laisser définir facilement. C'est le propre du mal de ne pas se laisser facilement identifier. Il arrive aujourd'hui encore qu'un homme soit tellement investi spirituellement par l'opposition à Dieu, par le mal, tellement rongé de l'intérieur, que sa personnalité finisse par laisser place à cette puissance sombre que la Bible appelle un esprit mauvais. Je ne veux pas voir des liens occultes partout, mais je ne veux pas les voir nulle part. En 40 ans de ministère, j'ai eu affaire une fois avec Muriel, à une manifestation démoniaque, et une fois à la délivrance. Ici, cet homme, dans cette situation dramatique, vient vers Jésus. Et c'est frappant de voir que c'est lui qui vient auprès de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui vient vers lui, comme si la puissance qui animait cet homme ne pouvait éviter la confrontation. Avec celui que Marc, dès le commencement de son évangile, nous présente comme le Fils de Dieu. En tout cas, si les disciples appréhendaient cette arrivée en terre païenne, ils sont servis. On ne peut pas faire plus sinistre que cela. Cet homme est tellement loin de Dieu, tellement perdu, tellement loin de la vie que Jésus veut offrir. Et d'ailleurs, c'est significatif qu'il erre dans les tombeaux. Il ne fait, cet homme, que côtoyer la mort. Et on peut supposer que cet homme était bien connu, que l'on racontait des histoires à son propos. Et une petite ironie de ce texte, il y en a plusieurs, c'est que cet homme ne peut pas être retenu par des chaînes physiques. Et pourtant, spirituellement, il était profondément lié, il était profondément enchaîné par le mal qui l'anime. Et tout va changer lorsque cet homme va rencontrer Jésus, lorsque cet homme va s'approcher de Jésus. Tu peux mettre la diapositive suivante, s'il te plaît. Mais là, on se peut se poser la question, tu peux cliquer, normalement, il devrait y avoir une autre. Croyons-nous que la puissance du Seigneur est capable de délivrer les personnes qui, à nos yeux, sont trop éloignées de la foi pour être atteintes par la grâce du Seigneur? Et je vous laisse là juste réfléchir 2 minutes à toutes les personnes, membres de notre famille, conjoints peut-être, amis, collègues de travail, dont nous disons, nous pensons qu'ils sont éloignés de la grâce de Dieu tellement que cette grâce ne peut pas les atteindre. Question que je vous laisse vous poser, vous interroger. Jésus demande à l'homme ou au démon, quel est ton nom? Et le démon répond, Légion, car nous sommes nombreux. Légion, à quoi ça vous fait penser? Légion. Hein? À l'armée? Quelle armée? L'armée romaine, exactement. Il fait allusion à l'occupation. Comme si les disciples n'étaient pas suffisamment écœurés comme ça, ils prennent en plus le nom d'une division de l'occupation romaine. Ici encore, il nous est difficile de nous représenter bien exactement ce que pouvait constituer une légion de démons. Mais la conclusion de Marc est claire. L'homme est totalement investi par cette puissance sombre et néfaste. Ce n'est pas un démon, mais une armée de démons qui habite en lui. Et pourtant, une parole de Jésus, une parole de Jésus suffit pour que le démon soit terrifié. Il cherche en quelque sorte à négocier leur exfiltration. Et avant de revenir donc sur ce choc, j'aimerais que nous réfléchissions justement à cette leçon encore une fois. Quels sont les amis, les parents, les personnes que nous rencontrons et que nous pensons éloignées du Seigneur au point que Jésus ne peut pas les délivrer? Ces personnes pour lesquelles nous ne prions plus, ces personnes envers lesquelles nous n'avons plus d'espoir. Et ma question est la suivante, mais en quel Dieu croyons-nous? En quel Dieu croyons-nous? En un Dieu à notre image, avec nos limites, avec nos possibilités. Un orateur qui est venu faire une retraite sur la grâce au cœur de nos combats raconte son propre témoignage. Il était, depuis son plus jeune âge, lié par des forces occultes. Et sa mère a prié tous les soirs, devant la porte de sa chambre. Cet homme s'est tourné vers le Seigneur. Il est devenu un prédicateur, racontant son témoignage avec une pertinence extraordinaire. Prier pendant tant de temps devant la porte de sa chambre. Combien de temps passons-nous à prier pour les personnes qui sont autour de nous, collègues de travail, amis, je répète, conjoints, pour lesquels nous avons cessé de prier, pour nos enfants peut-être. Nous les croyons si éloignés. Une autre question que nous pouvons nous poser, et tu peux l'afficher en cliquant, s'il te plaît, et qui est plus important, plus inconfortable, c'est de nous demander quels sont les liens, nous personnellement, qui nous entravent encore dans notre relation avec Dieu. Je ne parle pas de possession démoniaque, mais de liens. Cet homme avait des chaînes visibles qu'il arrivait à briser. Mais intérieurement, il était encore lié. Quels sont ces restes qui sont encore en nous? L'avarice. Que dès l'histoire de deux dames. Une qui jalousait l'autre. Et vous ne savez pas pourquoi elle jalousait l'autre? Parce qu'elle était habillée de manière toujours très élégante et surtout, elle avait des bijoux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Et l'autre peinait avec ses fins de mois. Et vous savez comment se traduisait cette jalousie? Chaque fois que cette personne disait quelque chose, même de pertinent, elle lui rentrait dedans. Et un jour, celle qui était élégamment habillée vient trouver sa sœur et lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu m'en veux ?» Et l'autre de lui répondre « Je suis jaloux de tes bijoux. » Et l'autre de lui répondre « Tu sais où je les ai achetés, mes bijoux ? » À Carrefour. À Carrefour. Tu sais pas ? Carrefour ? À Migros, pour ceux qui sont suisses. Quels sont les liens qui nous entourent, qui nous retiennent? La convoitise pour cette femme. Oh, la convoitise. Quand je suis invité chez des personnes qui ont une immense maison. Et qui vous disent, je vous leur demandais, j'aimerais aller aux toilettes, ça c'est la question essentielle. Et là, ils vous disent, Vous allez au fond du couloir, là vous faites 50 mètres. Puis après vous tournez à droite, vous faites 20 mètres. Et puis à gauche, et là vous passez dans des portes, une maison immense. Et là vous dites, moi j'ai une toute petite maison de rien du tout. Ah, j'aimerais avoir cette immense maison. La violence verbale. Certains ne peuvent pas se retenir. Ça monte, ça monte. Et ça part. Le mépris. Le racisme. Oui, dans nos églises, ça existe, le racisme. Alors que j'étais pasteur ici, je bricolais. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient. Il me dit, j'aimerais voir le pasteur. Alors je dis, bah, c'est moi. Il me dit, mais non, le vrai. Alors, j'aurais dit, bah, venez dimanche, vous verrez le vrai. Le vrai. Dans une église qui est en complète déliquescence. Complète déliquescence. Qui devrait se réjouir de voir des gens nouveaux arriver. Une famille venant d'Afrique vient. Et une des responsables dit à l'autre qui se réjouissait de voir cette famille arriver. Il faut se méfier des Noirs. Dans l'Église. Dans l'Église. Quels sont les liens qui nous entravent? Je caricature. Dans notre région, il y a un lien qui nous entrave. Le franc suisse. Le franc suisse. Auquel les frontaliers sont tellement accrochés que toutes les semaines, ils regardent si le franc suisse monte un peu plus. Ils espèrent que le franc suisse montera un peu plus. Parce que plus le franc suisse montera, plus ma paye augmentera. Vous savez ce que dit Jacques, ce qui est démoniaque. Allez dans l'épître de Jacques. L'avarice, la jalousie, etc., etc. Je suis tout aussi concerné que vous par la problématique du péché. Tout aussi concerné que vous par ces éléments que je viens d'expliquer, ou peut-être pas tout ce que je viens de vous énumérer, mais certains. Mais en lisant ce texte, j'aimerais pas que nous croyions que cet homme est tellement loin de nous. Nous avons nous aussi des entraves. Et il vaut la peine de nous présenter devant Dieu et de nous aider, et de lui demander de nous aider à nous en libérer. Un choc frontal, le deuxième point. Vous avez sans doute entendu parler de la ferme aux 1000 vaches. Mais ici, il s'agit non pas de 1000 vaches, mais de 2000 porcs. On a bien la confirmation ici que nous sommes en terre païenne, puisqu'on n'élevait pas 2000 porcs en terre juive, mais bien en terre païenne. En tout cas, on se rappellera longtemps de la visite de Jésus dans cette ville. Et l'homme qu'ils connaissent tous dans la région est totalement guéri par la puissance de Jésus-Christ. Mais cette guérison s'est faite de façon si frappante, si effrayante. Mettons-nous un instant à la place des gardiens du troupeau qui voient en fait leur source de revenus, leur économie, disparaître comme ça au fond de la mer. Nous qui lisons ce texte aujourd'hui, ça peut nous paraître drôle, mais nul doute que pour les témoins de l'époque, c'était dramatique. Cette scène effrayante, sans parler du préjudice économique, explique en bonne partie l'attitude des habitants de la région qui supplient Jésus de quitter la région. C'est paradoxal, hein ? C'est maintenant que le démon ou que les démons sont partis qu'ils sont effrayés et qu'ils veulent que Jésus s'en aille. Parce que la puissance manifestée par Jésus les dépasse entièrement. Et c'est comme si elle les mettait finalement mal à l'aise. Mal à l'aise. J'ai l'impression que nous ne sommes pas si éloignés de cette réalité, si j'ose dire. La puissance de Dieu, lorsqu'elle confronte le mal autour de nous, dans nos vies, nous met parfois mal à l'aise. Surtout si le mal fait partie de notre décor, s'il fait partie de nos vies, ou surtout si on y a pris goût. Le consumérisme, omniprésent dans notre société. On s'y est habitué. Et quand quelqu'un décide en fait de tout vendre pour vivre une vie beaucoup plus sobre, ça nous dérange, parce que ça nous renvoie à nos propres travers. La purification que Jésus nous offre, qu'il veut opérer en nous, dérange profondément. Il a dérangé profondément les témoins de la scène. Maintenant, la question que l'on peut se poser est de se demander pourquoi Jésus a permis à ces démons d'aller se réfugier dans les ports. D'abord, il les mène à se perdre immédiatement dans la mer. Et surtout, pour les propriétaires qui voient leur gagne-pain disparaître en un instant dans la mer, ça les déstabilise. Et ce qui est important, me semble-t-il, qu'il faut retenir, cela nous montre que la grâce de Dieu n'entre pas dans nos calculs humains les plus logiques en apparence. Nous voyons que la grâce dérange profondément. La purification est douloureuse la plupart du temps. Et la scène nous permet de voir que pour les seigneurs, il n'y a pas photo. Entre un homme délivré de son mal et la source de profit. Et ça peut nous déstabiliser. Il n'y a pas hésitation à voir. Le Seigneur parfois nous emmène, pour notre bien, sur des terrains où nous pouvons perdre beaucoup de choses, matériellement. On reproche à Jésus d'avoir guéri une certaine femme le jour du sabbat, vous vous souvenez ? On reproche à Jésus de l'avoir guéri. Et Jésus, on lui dit, mais n'y a-t-il pas six jours dans la semaine pour guérir ? Et de plus, cette femme avait attendu combien de temps ? 18 ans. Elle attendait 18 ans. Cette femme n'est donc pas à un jour près et peut revenir le lendemain. Et Jésus répondra, il n'y a plus un instant à perdre. La grâce de Dieu ne se calcule pas. Elle n'entre pas dans nos schémas, même dans nos schémas en apparence pieux. S'il y en a qui parmi nous essaient de faire entrer la grâce de Dieu dans leur schéma de vie, alors vous serez profondément déçus. Dans ces schémas où tout est prévu pour nous, par nous, où rien n'est laissé au hasard, nos objectifs, nos priorités, et on va essayer de faire entrer Dieu là-dedans. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Si on veut faire rentrer le Seigneur dans nos schémas de vie, il faut alors renoncer tout de suite à le suivre. Ce que la Bible appelle la repentance, changer de vie. Il faut laisser Dieu changer tout ça, tout chambouler. Et c'est une purification qui fera mal, mais dont nous avons désespérément besoin. Dieu veut rétablir l'homme dans sa dignité, dans une dignité de créature à l'image de Dieu, en paix avec son Créateur. Et puis enfin, et je terminerai par là, ce sera, je vous le rassure, plus court, un témoignage vital. Qu'est-ce que veut le démoniaque libéré ? Quand on a vécu une expérience aussi extraordinaire que ça, qu'est-ce qu'il veut ? Vous avez vu, c'est mon dernier point, c'est bientôt la fin. Il veut rester avec Jésus. Il a déjà enjambé pour aller dans la barque. Il y a un cantique les plus connus dans le répertoire hymnologique anglophone, c'est Amazing Grace, qui veut dire grâce infinie. Mais beaucoup ne savent pas que ce chant qui parle de la grâce merveilleuse de Dieu d'un homme qui a été perdu et qui était retrouvé, qui était aveugle et qui voit, ce chant s'inspire de son auteur, John Newton, qui était un marin, un esclavagiste, connu pour sa violence, connu par sa vulgarité, qui un jour a fait une rencontre fulgurante avec Jésus et qui a radicalement changé sa vie. Il était pasteur et militant contre l'esclavage. Et il nous a laissé ce chant magnifique. Quand on a connu une délivrance magnifique, on ne peut pas ne pas en parler. Il vient de connaître une délivrance. Il n'a pas envie de quitter Jésus. Et on peut le comprendre. Mais Jésus a une autre mission pour lui. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu peux afficher. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. On constate que cet homme ne demande pas à Jésus d'être... que Jésus ne demande pas à cet homme d'être un grand prédicateur, comme le sera par exemple l'apôtre Paul. Ses projets pour nous sont différents, mais ils sont parfaits. Il demande à cet homme d'être simplement témoin, de raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Le Seigneur ne nous demande pas d'être forcément missionnaire au loin, d'être évangéliste, comme l'a été Billy Graham. Mais il me semble que le Seigneur nous appelle tous à être témoins. Mais contrairement à ce qui est un peu en vogue en ce moment, c'est d'être témoin avec des actes uniquement, pas seulement avec des actes uniquement, mais être témoin implique une parole. Ça implique de parler de lui à ceux qui ne les connaissent pas. Et ça, c'est difficile. Ce n'est pas toujours naturel. Et c'est là particulièrement dans notre société ultra-laïque. Quand vous allez au travail le lendemain, qu'est-ce qu'on vous demande ? Première chose qu'on vous demande. Allez. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Eux, ils vont vous raconter ce qu'ils ont fait. Hein ? Et quand j'étais jeune, ils racontaient qu'ils avaient été en boîte de nuit et qu'ils s'étaient éclatés. Ils avaient fait des rencontres super. Pas ces détails de ces rencontres super. Et nous, qu'est-ce que nous répondons ? Et voilà. C'est simple, j'ai été au culte. Et déjà, on a dit quelque chose. C'est tout simple. Mais parfois, on n'ose même pas demander, dire aux gens qu'on a été au culte. Là, je pense aux jeunes particulièrement. Quand ils sont en face de copains qui leur disent « On a été faire la fête, on a bu des coups, on a été au Ramdam, on s'est éclaté, on est rentré jusqu'à 3 heures du matin, c'était génial !» Si on apprenait à nos jeunes à dire « Tout simplement, j'ai été au culte. » Quand on a dit ça, on a déjà fait un pas vers le témoignage. On peut rajouter, si vous ne m'avez pas écouté, si je n'étais pas derrière la prédication, le prédicateur était génial. Et le prédicateur était génial. La première chose pour témoigner est de ne pas se cacher. Je peux mettre l'autre diapositive, quelques éléments, des conseils simples et concrets pour témoigner. Ne pas se cacher. Dire que dimanche matin, on était au culte, ce n'est pas ce que font la majeure partie des gens que nous rencontrons, mais ce n'est pas grave. On peut dire que mercredi, on était à l'étude biblique, à la réunion de prière de quartier. C'est souvent une première matière en entrée. Et puis, dire à ceux qui passent par l'épreuve que nous allons prier pour eux. Pas forcément avec eux, mais pour eux. Je n'ai jamais entendu de personne à qui on disait qu'on allait prier pour eux, même les plus récalcitrants, s'offusquer. Et puis, dernière chose prier pour que le Seigneur suscite des occasions de parler de notre espérance. Est-ce que c'est une prière que vous faites souvent, le matin ? Pas forcément, hein. Prions, Seigneur, vraiment je te prie pour que tout se passe bien aujourd'hui. Que mon chef soit un peu trop pénible, que ma femme soit sympa, que mes enfants ne soient pas trop pénibles. Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, une occasion de témoigner de mon espérance. Avez-vous été libéré ? Le Seigneur a-t-il, dans votre vie, provoqué ce miracle en déliant des choses qui étaient, auxquelles vous étiez tellement attaché ? Le plus beau témoignage, je terminerai par là, a été dans la salle du bas lorsqu'un jeune s'est fait baptiser. Un témoignage extraordinaire, mais qui a laissé tout le monde sidéré. J'étais pécheur et le Seigneur m'a pardonné. Point final. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait toute son histoire. Témoignage d'une demi-heure ? Pas du tout. En une minute, il avait tout dit. Tout dit. Le Seigneur l'avait libéré. Un mot qui veut tout dire. Priez pour que Dieu suscite des occasions de témoigner de manière toute simple. Je vais y arriver avant de vous délier. Ce récit est ce texte qui met le plus en lumière la puissance de Jésus-Christ, capable de nous libérer. Puisse le Seigneur produire en nous ses victoires, puissions-nous surtout avoir le courage de pouvoir venir devant lui pour être libérés. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, tu nous connais parfaitement. Tu sais où nous en sommes. Tu sais ce qui nous retient encore, loin de toi. Merci parce que ta puissance est totale. Tu as, toi, la victoire sur l'ennemi. Et tu peux, Seigneur, nous libérer de tout ce qui nous retient encore enfermés. Que nous puissions regarder nos vies avec une totale lucidité et avec cette humilité qui nous permet de venir devant toi et te demander de nous libérer. Te prions aussi pour tous ceux qui, autour de nous encore, sont enchaînés. Ces personnes que nous côtoyons, ces membres de nos familles, de notre famille, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de vraiment avoir cette foi en toi qui nous permet de persévérer dans la prière et de croire que personne n'est trop éloigné de ta grâce pour être atteint par elle.